Parce que c'est vrai, l'Évangile nous appelle à vivre différemment. Que ça commence en janvier ou à n'importe quel autre moment dans l'année, un disciple de Jésus devrait vivre différemment. Différemment des autres, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et différemment aussi de soi-même, c'est-à-dire différemment de la personne que nous étions par le passé. La vie de quelqu'un qui suit Jésus, c'est une vie de transformation perpétuelle. Dès le moment où tu mets ta foi en Jésus, où tu te mets en route pour suivre Jésus, ta vie devient un cheminement. Tu ne seras pas la même personne à la fin de cette année que tu es aujourd'hui. Tu ne seras pas la même personne en 2020 que tu étais en 2016. Et si tu l'es, il faudra te poser la question, est-ce que je suis Jésus ou suis-je assis à côté de la route? L'Évangile nous appelle à vivre différemment. L'Évangile nous appelle à vivre bien. Et nous commençons donc aujourd'hui, nous commençons une série de messages que j'ai intitulé « Vivre bien, vivre différemment ». L'expression « vivre bien » peut signifier beaucoup de choses dans notre culture. Mais comme d'habitude, notre but sera de voir ce que la Bible en dit. Et si la vie d'un croyant est une vie en chemin avec Jésus, l'acte de vivre différemment ne sera pas simplement le fait de se réveiller chaque jour et respirer, ni non plus de faire tout bêtement ce qui est devant nous. Vivre bien notre vie sera d'avoir une vie réfléchie, de choisir de plus en plus souvent le bien plutôt que le mal, de choisir de plus en plus le chemin du Christ plutôt que notre propre chemin. J'espère que c'est notre bonne résolution pour cette année. Le but de cette série sera donc de creuser ce que la Bible nous dit par rapport à ces choix que nous devons prendre, les choix que nous devons faire chaque jour cette année, entre le bien et le mal, afin de vivre vraiment différemment cette année. Vous connaissez peut-être le fameux slogan d'Apple, « Think different », pensez différent ou pensez différemment. La vie d'un disciple commence là. Il faut penser différemment. Romains 12, 2 nous exhorte « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il faut laisser la parole et l'esprit transformer notre façon de penser. La vie d'un enfant de Dieu implique une nouvelle façon de penser. Mais elle ne s'arrête pas là. Le renouvellement de notre intelligence doit nous amener à vivre différemment, à vivre selon la volonté de Dieu. Il faut vivre différemment, à la lumière de la croix. Sinon, nous ne sommes que des cuivres qui résonnent et des symboles qui retentissent, comme le dit l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, je vais parler du pourquoi. Pourquoi faut-il vivre différemment? La semaine prochaine, on parlera du comment. Et puis, nous aurons plusieurs semaines pour aborder des questions très précises. De grandes questions éthiques, comme la guerre et la paix, la justice sociale, notre soumission aux autorités, et aussi des questions d'éthique de plus personnel, comme la sexualité, le travail, l'argent. Ce ne sont pas des questions faciles. Et donc, pour faciliter notre réflexion, nous allons mettre à votre disposition des petits livrets qui nous ont été fournis par l'Association Baptiste. Donc, voilà un des livrets. L'Association Baptiste, c'est l'association des églises dont nous faisons partie. Et ces livrets sont intitulés Principes éthiques, ce qui veut dire tout simplement Principes pour vivre bien. Et il y en a sur la table d'accueil. Sur chaque question précise que nous allons aborder, ces livrets résument une perspective biblique avec une liste de passages bibliques. Et je vous encourage chacun à en prendre un et à étudier les passages qui s'y trouvent pour bien fonder notre vie différemment sur la parole de Dieu. C'est ça l'essentiel. Et ces versets qui sont dans ces livrets vous seront un outil très précieux. Mais aujourd'hui, nous allons regarder la question plus globale, le pourquoi. Et cette question est traitée dans la première partie du livret. Il y a cinq parties, je pense, dans la première partie du livret. Alors, quelles sont les raisons qu'un disciple de Jésus devrait vivre bien et différemment? On verra plusieurs. Mais d'abord, il faut parler d'un scandale. Ce n'est pas le scandale qui est la situation politique aux États-Unis en ce moment, ou au Congo, ou même en France. Et ce n'est même pas le scandale, les mêmes scandales qu'on peut trouver dans le monde de Hollywood et les stars et tout ça. C'est un scandale d'une autre sorte complètement. C'est le scandale de la grâce. C'est le scandale de l'Évangile qui nous dit que nous sommes sauvés non par nos œuvres, mais par quoi? Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ou encore, 2 Timothée 1, 9 et 10, il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il n'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ en toute éternité. Et j'en passe. Mais là, c'est le cœur de l'Évangile. Ce fait d'avoir accès à Dieu, non pas grâce à nos mérites, mais grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Et pourquoi cette grâce est-elle un scandale? Pourquoi Paul appelle-t-il la croix un scandale en 1 Corinthiens 1? Parce que chaque religion du monde cherche à accéder à Dieu par les œuvres. L'être humain veut mériter ce qu'il reçoit. Si nous allons avoir une relation avec Dieu, nous pensons que nous devrions la mériter. Et ça va complètement contre notre nature humaine et pécheresse d'accepter ce qu'on n'a pas mérité. Et en plus, ça va aussi contre la nature humaine de voir les autres recevoir ce qu'ils ne méritent pas. C'est scandaleux qu'un homme adultère puisse être pardonné. Surtout si cet homme adultère n'est pas moi, si c'est quelqu'un d'autre. C'est scandaleux qu'un meurtrier peut être pardonné. C'est scandaleux qu'on soit pas obligé de travailler pour notre salut. Et pourtant, c'est ça l'Évangile. C'est ça la grâce de Dieu. Si cette grâce ne nous scandalise pas, c'est très possible que nous n'ayons pas vraiment compris sa profondeur. La grâce de Dieu est choquante. Êtes-vous choqué par la grâce de Dieu? Il faut se poser la question, ai-je vraiment compris cette grâce? Cette réalité qui dit que ce n'est pas mes œuvres qui me sauveront, mais la grâce de Dieu. Parce que sinon, les études que nous allons faire ces prochaines semaines seront dangereuses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'est-ce qu'on est dangereuse? Parce qu'en parlant de vivre bien, nous serons tentés de dire « Voilà comment je dois vivre pour avoir accès à Dieu. » Nous serons tentés de dire je vis bien pour avoir accès à l'amour de Dieu et au salut. Voilà le comportement que je dois avoir pour recevoir son amour, pour recevoir le salut. Mais non. Et donc, si vous avez noté cette réponse-là, maintenant, il faut rayer. Parce que c'est la mauvaise réponse. Ce n'est pas pour ça que nous vivons pour Dieu. Et là, vous avez aussi les deux versets que j'ai cités qui disent clairement que c'est par la grâce que nous avons l'amour et le salut. Nous avons le salut par la foi. Nous avons une relation avec Dieu grâce à la foi. Et j'avoue que parfois, pour un pasteur, ce serait peut-être plus simple si on pouvait dire le contraire. Ce serait plus simple dans un sens si je pouvais vous dire simplement, voici comment la Bible vous dit, selon la Bible, comment vous devez vivre. Et si vous ne vivez pas comme ça, aucun salut pour vous. Ce serait au moins motivant, n'est-ce pas? Tu le trouves difficile à aimer ta femme? Ben, aime-la, ou c'est l'enfer pour toi. Des fois, ce serait plus simple si je pouvais dire ça à moi-même. Ou bien, tu as du mal à être 100% honnête avec tout le monde? Ben, alors, règle ça, ou c'est la condamnation éternelle pour toi. Tu ne veux pas venir prier? Pareil. Ça serait peut-être une façon efficace pour remplir les chaises. Et il y a certaines religions, certaines qui se disent chrétiennes même, qui le disent comme ça, ou presque. Si tu ne viens pas, ben tu risques l'enfer. Mais c'est une trahison de l'évangile de la grâce qui nous est offerte dans la Bible. Il faut garder cela bien en tête ces prochaines semaines, lorsque nous parlons de vivre bien. On ne vit pas pour le Seigneur afin d'être sauvé. On est sauvé afin de vivre pour le Seigneur. Vous voyez la différence? On ne vit pas pour le Seigneur afin d'être sauvé. On est sauvé afin de vivre pour le Seigneur. Mais alors, qu'est-ce qui nous motive? C'est ça la grande question. Pourquoi chercher à vivre bien, à vivre différemment, si ce n'est pas pour gagner le salut? Ben, il y a beaucoup de raisons dans la Bible, en fait, mais on peut les résumer ainsi. La vie bien vécue est riche, elle est belle, et elle est normale. Je m'explique. D'abord, une vie bien vécue est riche. En Jean 10, 9 et 10, Jésus nous dit, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qu'elle ait la vie en abondance ou la vie abondante dans certaines traductions. Jésus est venu non pas simplement pour donner la vie nouvelle, pour nous sauver. Il est venu pour que nous ayons cette vie en abondance. Déjà, autrement dit, nous ayons la vie richement. Et pour avoir cette vie riche, nous devons vivre selon ses prescriptions. Et ça pour deux raisons. D'abord, les principes de la Bible nous donnent une vie abondante parce qu'elles sont pour notre bien. Comme un parent qui interdit à son enfant de jouer dans la rue ou qu'il pousse à faire ses devoirs. Dieu sait mieux que nous ce qui nous permettra d'avoir une vie abondante. Un enfant ne pense qu'aujourd'hui, mais le parent sait bien que l'enfant qui joue dans la rue risque un jour de ne plus jouer dans la rue ou ailleurs. Et il sait que l'enfant qui se repose plutôt que de faire ses devoirs ne fait que de tirer sur soi-même plus de travail plus tard. L'Éternel est notre Créateur. Il est notre Père. Il sait bien mieux que nous ce qui constitue pour l'être humain une vie abondante. Lorsque Dieu a donné la loi de Moïse aux Israélites, en Deutéronome 4, il a dit ainsi, « Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enleverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Et puis le verset 6 dit que ce sera là notre sagesse et notre intelligence. Qui d'entre nous n'a pas besoin de sagesse et intelligence dans cette vie? La vie peut être très compliquée. Notre propre intelligence ne suffit pas. On se sent parfois complètement accablé par les décisions qu'il faut prendre, par la complexité de la vie humaine. Si nous nous appuyons sur notre propre sagesse, mais si nous nous appuyons sur les prescriptions de Dieu, nous y trouvons une sagesse éternelle. Plus tard, en Deutéronome 30, après avoir donné la loi, Dieu va le redire ainsi. « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier. » Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Pour le peuple d'Israël, comme pour l'enfant qui joue dans la rue, c'était une question de périr, littéralement. Si le peuple d'Israël ne suivait pas les commandements de Dieu, la nation tomberait en ruine et chaos. Et pour nous aussi, ça peut être le cas. Une vie complètement déréglée, marquée par l'addiction ou la sexualité immorale, par exemple, ça peut entraîner la maladie et la mort. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que souvent, c'est au niveau émotionnel et spirituel que nous expérimentons les effets d'une vie éloignée des voies de Dieu. Des relations brisées, un manque de paix intérieure, le sentiment de mener une vie sans but. Je ne sais pas si vous voyez dans tout ça, mais ce sont des symptômes d'une vie éloignée de Dieu. Si par contre nous marchons dans les voies de Dieu, nous aurons une façon de vivre qui permet une vie abondante, une vie riche. Pas une vie facile, attention, mais une vie marquée par la vie de Christ en nous. Et là, il faut faire attention et ne pas confondre les deux, une vie riche et une vie aisée. Parce que finalement, qui a la vie plus riche, plus abondante? L'homme qui vit dans un petit appartement, qui n'a pas d'argent, mais qui aime ses voisins, qui a des problèmes, des soucis de santé à cause de son âge, mais qui souffre noblement pour que le Christ puisse transformer sa souffrance en espérance, qui n'a pas de boulot important aux yeux du monde, mais qui passe son temps en communion avec Dieu. Cet homme-là, ou bien l'homme qui vit dans une grande maison, mais qui ne connaît pas ses voisins, qui est plein de vigueur et qui n'a donc jamais dû apprendre à s'appuyer sur Dieu, qui a un boulot prestigieux, mais pas de raison pour vivre. Lequel a la vie la plus riche, la plus abondante? Vous voyez, les commandements de Dieu nous ouvrent la porte à une vie riche et abondante, mais il ne faut pas confondre riche et aisé. La vie la plus abondante jamais vécue, c'est celle de Jésus. Mais si nous imaginons que Jésus avait une vie aisée, nous n'avons pas lu les évangiles, tout simplement. La deuxième raison qu'une vie bien vécue nous permet une vie riche, c'est qu'une attitude d'obéissance ouvre notre esprit à l'Esprit de Dieu en nous. Elle cultive notre relation avec Dieu, la source de la vie. Si tu as mis ta foi en Christ, tu as le Saint-Esprit en toi, comme gage et prémisse de la vie éternelle. Mais une attitude rebelle et désobéissante étouffe cet esprit. Il réduit la manifestation de sa présence en nous. Nous lisons en 1 Thessaloniens 5, verset 15. « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Abstenez-vous de toute forme de mal. Sinon, ce mal va réduire l'écoulement de l'esprit dans notre vie. Comme quelqu'un qui plie en deux un tuyau d'arrosage. Vous voyez, l'eau est toujours là. Mais on se coupe de ses bienfaits par notre attitude rebelle. Il y a quelques mois, nous avons planté un arbre dans notre jardin et je l'ai arrosé comme on m'a dit de le faire à la pépinière où je l'ai acheté. Mais à un certain moment, il n'y avait plus d'eau. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il fait froid, j'ai froid, je veux terminer, mais j'ai plus d'eau. Il y a un problème avec l'eau. Quelqu'un a coupé l'eau au robinet. Et j'ai presque crié vers la maison, « Hé, qui a coupé l'eau ?» Et puis j'ai vu que, non, c'est moi qui avais passé le tuyau sous la portail d'une façon qui l'avait plié. Et donc c'était de ma faute que l'eau coulait pas. Ou l'eau coulait, mais à peine. Alors c'est ce que le péché et l'indifférence à Dieu, envers Dieu, font dans notre vie. L'esprit est toujours là. Si nous avons mis notre foi en lui, mais nous nous privons de la richesse spirituelle qu'il nous offre en laissant nos attitudes et nos actions l'étouffer. Nous voulons une vie riche, une vie abondante. Marchons selon l'Esprit cette année. Cherchons le bien. Abstenons-nous de toutes sortes de mal. Vivons différemment. Différemment que le monde qui ne connaît pas Dieu et différemment que l'ancienne personne que nous étions. C'est pour notre bien. Voilà la première raison pour vivre bien. Mais ce n'est pas tout. Car vous avez peut-être constaté que rester dans cette optique-là, ça serait de rester quand même égoïste. Parce que jusqu'ici, nous n'avons parlé que des bienfaits pour nous-mêmes. Une vie riche pour nous-mêmes. Et quelque part, c'est normal. Dieu veut que nous ayons cette vie abondante parce qu'il nous aime. Mais il n'aime pas que nous. Il aime le monde entier. Il veut que le monde entier le connaisse. Et pour ça, il faut que votre vie, notre vie, soit non simplement une vie riche, mais aussi une vie belle. Une vie belle dans le sens qu'elle soit visible et attirante aux autres. Belle dans le sens qu'elle soit une bénédiction à ceux qui nous entourent, à nos proches et au monde entier. Belle dans le sens qu'elle reflète la beauté de Dieu au monde. C'est ça la gloire de Dieu. Finalement, c'est sa beauté qui se trouve dans son amour et dans sa justice. Nous avons déjà vu comment la loi de Moïse était pour le peuple d'Israël une façon de choisir la vie et le bien pour lui-même. Mais voici la deuxième partie de ce passage-là. Verset 6. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu, m'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Pour faire quoi? Pour se glorifier soi-même? Le peuple d'Israël? Bien sûr que non, pour glorifier Dieu, pour refléter sa gloire. Car c'était à travers la vie du peuple d'Israël que Dieu voulait révéler son caractère au monde. La loi de Dieu révélait le caractère de Dieu au peuple d'Israël et ainsi au monde. C'est un caractère d'amour et de justice, comme nous le verrons dans les semaines à venir. C'est l'amour et la justice qui marquent toutes ces questions, nos réponses à toutes ces questions. Mais si le peuple refusait de vivre selon la loi, la révélation était cachée, la lumière était assombrie. Comme Jésus le dit en Matthieu 5, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est l'une des raisons principales que la désobéissance attire la colère de Dieu dans l'Ancien Testament vers le peuple d'Israël. Parce qu'à l'époque, chaque peuple avait son Dieu ou ses dieux. Et le comportement du peuple était comme une grande affiche sur laquelle était marqué « Voici le caractère du Dieu que nous suivons, que nous adorons. Voici les valeurs de notre Dieu. » Et à chaque fois que le peuple d'Israël a désobéi à Dieu, en opprimant les démunis, en remplaçant la justice par l'égoïsme, en remplaçant l'amour par une sexualité déréglée, les autres ont pu dire « Voici le caractère de leur Dieu. Voici le caractère mauvais de leur Dieu. Par contre, si le peuple vivait selon la loi de Dieu, les nations diraient, voilà un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu sage et intelligent. Et c'est tout à fait pareil pour nous, l'Église. Dans la nouvelle alliance, depuis la mort et la résurrection de Jésus, c'est à l'Église de refléter le caractère de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que nous devons être un peuple saint, un peuple qui vit différemment. C'est ça le sens du terme saint, être mis à part, différent. Et si notre comportement n'est pas différent que celui des non-croyants, nous cachons le caractère de Dieu. Pire, nous donnons une occasion aux autres de dire « Et voilà le caractère de leur Dieu. Il est mesquin et cruel, faible et injuste, comme n'importe quel Dieu païen. » Si les gens n'avaient que ta vie pour connaître Dieu, qu'est-ce qu'ils imagineraient comme le caractère de Dieu? Qu'est-ce qu'ils verraient comme le caractère de Dieu, s'il n'avait que ta vie? Est-ce qu'il dirait que voilà un Dieu d'amour, de justice, d'intelligence? Une vie consacrée aux prescriptions du vrai Dieu est la plus belle chose qui peut exister dans ce monde. Une vie marquée par les valeurs de Dieu, par l'amour, la justice, la grâce, c'est la beauté de Dieu lui-même en nous sur terre. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que tu trouves beau dans ce monde? la musique, l'art, la nature, un beau coucher de soleil, une histoire émouvante bien racontée dans un livre ou dans un film. Il y a de la vraie beauté dans ce monde que Dieu a créé. Mais il n'y a rien de plus beau qu'une vie bien vécue selon les commandements de Dieu. Prends un instant pour penser au plus beau morceau de musique que tu as jamais entendu, ou la plus belle image que tu as jamais vue, ou la plus belle histoire que tu as jamais entendue. Et quand tu as ça en tête, est-ce que tu te rends compte qu'une vie bien vécue, une vie qui reflète le caractère de Dieu, est plus belle que toute autre chose qu'on peut imaginer? Nous ne sommes pas tous des musiciens, nous ne sommes pas tous des artistes, mais nous pouvons tous créer la beauté dans ce monde en reflétant le caractère de Dieu. Une vie bien vécue est la plus grande œuvre d'art qui peut exister, parce que la beauté qu'elle reflète est la beauté de Dieu lui-même. Chaque jour, je peux choisir de faire ma vie, de faire de ma vie un chant ou un tableau qui reflète la beauté de Dieu lui-même. C'est la deuxième raison pour vivre bien cette année, pour avoir une vie belle. Mais là, j'aimerais faire une petite parenthèse, parce que peut-être il y en a ici ce matin qui sont en train de se dire, ben ouais, j'aimerais ça. J'aimerais que ma vie reflète la beauté de Dieu au monde. Mais en fait, pour moi, c'est trop tard. C'est trop tard pour ma vie d'être une vie bien vécue, parce que je l'ai déjà mal vécue trop longtemps. Si c'est votre cas, je vous dis d'abord, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard avec Dieu. C'est jamais trop tard pour lui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Il est ton créateur. Rien n'est trop tard pour lui. Deuxièmement, je te rappelle qu'il n'y a rien de plus beau qu'une vraie vie perdue qui se tourne vers le berger. Il n'y a rien de plus beau qu'une vie restaurée. Et ça veut dire que rien ne reflète le caractère de Dieu mieux que le moment où nous confessons nos péchés et revenons vers lui, afin que sa grâce soit déversée dans notre vie et ainsi exposée au monde. Nous voulons que notre vie reflète le caractère de Dieu. Nous devons, si nous voulons que notre vie reflète le caractère de Dieu, nous devons confesser ouvertement que notre vie n'est pas parfaite et que ce n'est que Jésus qui peut vivre une vie parfaitement, et que nous avons tous besoin de son pardon. C'est ça la beauté la plus profonde d'une vie bien vécue. Le fait que ça commence par la vie de Jésus en nous. Alors, pour terminer, si le fait d'avoir une vie riche et belle n'était pas assez, il y a quand même une dernière raison pour vivre selon les principes et les préceptes de la Bible. Et c'est tout simplement que c'est normal. C'est normal dans le sens qu'on entend quand on fait quelque chose pour quelqu'un et la personne te dit merci et tu réponds, bah, c'est normal. C'est-à-dire tu reconnais que ce que tu as fait n'est rien de spécial. Tu faisais tout simplement ce qui était approprié. Tu vois quelqu'un en train de porter un objet trop lourd et tu l'aides. Il te dit merci, tu réponds, c'est normal. Ce n'est pas normal dans le sens où tout le monde l'aurait fait. Bien des personnes auraient continué sans aider, il faut le savoir. Mais c'est normal dans le sens que c'est ce qu'on devrait faire. Et c'est comme ça avec Dieu. C'est normal que nous vivions selon ses commandements. Parce que même si on ne cherchait pas à avoir une vie riche, même si on se fichait d'une vie belle, il est quand même notre Créateur. C'est lui qui nous a donné la vie. Et si ce n'était pas assez, c'est lui qui s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. C'est normal que nous répondions par une vie consacrée à l'obéissance à lui. C'est ce que nous devrions faire par simple reconnaissance. Mais ce n'est pas normal dans le sens où tout le monde le fait. Tout le monde ne le fait pas. Comme les 10 paralytiques qui étaient guéris par Jésus, 9 fois sur 10, nous recevons de la main de Dieu sans jamais penser à vivre une vie qui exprime notre reconnaissance. Et pourtant, c'est la seule réponse normale à tout ce qu'il a fait pour nous. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Est-ce que votre vie exprime votre reconnaissance à votre Créateur? La seule réponse normale à la grâce de Dieu est une vie consacrée à ses valeurs. La seule réponse normale à ce Dieu si plein de compassion et d'amour est l'adoration. Et Romains 12, 1 nous dit clairement, « Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Autrement dit, un culte normal. Une vie bien vécue est une vie vécue comme sacrifice vivant. Et ce n'est que raisonnable. Ce n'est que normal. Vu les compassions de Dieu, ce n'est que normal que nous cherchions à comprendre sa parole afin de penser différemment, afin de vivre différemment. Ce n'est que normal que nous nous offrons en sacrifice à notre Seigneur. Alors, voilà 3 raisons pour vivre différemment cette année, pour avoir une vie riche, une vie belle, une vie normale. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce matin d'exemples concrets, du comment vivre bien et quels sont les choix qu'il faut prendre. Ça sera pour le dimanche prochain et les semaines suivantes. Mais je vous encourage à commencer déjà cette semaine à réfléchir. Quels sont les principes bibliques qui guident votre vie? Comment votre vie serait-elle plus riche ou plus belle ou plus normale si vous mettez ces principes en pratique? Prenez un livret et parcourez les thèmes qui s'y trouvent cette semaine. Lisez les passages bibliques de la première partie qui évoquent ce que nous venons de voir aujourd'hui. Et surtout, cette semaine, commencez à prier. Surtout, priez. Prions tous que notre intelligence soit renouvelée cette année, pour qu'ensemble nous puissions vivre bien et vivre différemment. Je vous invite à prier avec moi.